This is Austin Ritchie for the Wave Farm Radio Art Archive. Po Bikelomami is a Congolese-rooted, Belgian-born artist, programmer, performer, writer, musician, and activist. Their work blends anti-colonialist, Afro-feminist, and anti-capitalist engagement with artistic expression, particularly through performances. The House of Kinshasa is a five-part sound project by Lomami, exploring the diasporic realities of transmission, return, and housing for a family spread across the Democratic Republic of Congo, Belgium, and Canada. This first part intertwines their parents' stories with field recordings and archival material from CKUT Montreal. Featuring sounds of WhatsApp notifications, radio samples evoking double consciousness, and the reoccurring idea that, quote, we speak French at home, the work highlights language loss and hybridization. Call waiting tones introduce the narratives, while compressed WhatsApp audio and atmospheric music convey familial and cultural distances.
Choisir les thèmes puis s'arrêter là, c'est jamais satisfaisant. Là. On voudrait tout le temps en faire plus. Là. C'est tough. C'est comme un peu, je pense que des fois, c'est des cris du cœur de comme bon là, je ressens qu'il faut que je parle de ça, soit parce que ça nous touche personnellement, soit parce que c'est
so
quelque chose qui nous
travaille. So I read about aussi, that. One of the first things that get lost from one generation to another in situation of immigration and diaspora is the language.
And
indeed, I don't speak Congolese languages. My parents speak several languages, including Kiswahili and Lingala. And I don't. And I think
Hannah seems to come from
it is
some
because
other time and place.
My dad,
she's a perfect little girl
he wanted
with
us to
heart,
integrate
sporting old school
in Belgium where we were born.
To be the
really good,
family.
So
her dad is a partner
for him it was important that we speak French at home. So the other Congolese kids, many of them, they learn Swahili or Lingala, or Chiluba, or Kikongo. You know, it's like that dynamic. You speak your parents' languages at home and also in the church and those community places. And then at school and other kind of settings like that, you speak French. But me and my brothers, we could only speak French. And probably when I was younger, I could understand a lot of things in Swahili. My mom also told me a little bit of it when I was a kid because I wanted to learn. So I learned how to count and some sentences and really few stuff and like welcoming phrases. But you know, nothing sustainable because my parents, they will not talk to us proficiently in Swahili. So yeah, that's the idea that language got lost pretty fast.
Damn.
It was nuts.
We went a long way.
Yeah.
Giving women the skills they need to navigate the digital world. Yeah. That's always been the mandate of the show.
It's always been a mandate that we have the power to learn and to
exactly.
Teach each other.
Yeah.
Agency.
Yeah, yeah.
Yeah. Agency.
Et oui, maman m'a appris mercredi que la maison normalement à Kinshasa était vendue.
Ah non, je pense que le monsieur est d'accord, mais il n'a pas encore fait le virement. Moi, je me dis, si je n'ai pas encore. Si les comptes ne sont pas crédités encore là, ce n'est pas encore vendu. Hein. Donc il y a un accord de principe, mais il n'a pas encore fait le versement. Les histoires de maisons comme ça, il faut attendre vraiment que le compte soit crédité, alors là, on est sûr que voilà, c'est vendu. Bon, mais c'est en voie.
And what I also learned about is that what sticks the longest is food. So yeah, language and food. But then there's all those other stuff I think about. Maybe things that you can't relocate geographically, like land, house, located experiences. That's when I think about the house in Kinshasa.
Nyumba ya Kinshasa. Ndako ya Kinshasa.
La maison,
la maison
de, Kinshasa.
De Kinshasa.
The House of Kinshasa. Part 1.
How shall people of African descent empower themselves?
This question, in many ways, defines the struggle of black people in North America. The question, of course, is vast, for empowerment stretches into social, spiritual, political, and economic spheres. Today, we're going to talk about economic empowerment of black people in the Montreal community.
Bon, j'ai des photos. Le quartier, pas tout à fait, mais j'ai la rue et tout ça. Je crois que je t'avais envoyé des photos. On vous avait pas envoyé des photos pour avoir une idée.
I have no idea of how that house looks like.
When I saw her with the app, I was like, yes, definitely. This is me. This is how I want to be. So I'd say she was beautiful, very beautiful.
En fait, le quartier là, j'ai dit que c'était un nouveau quartier. Les pavillons là, on les avait construits pour les joueurs, l'équipe nationale. Donc c'était des cadeaux, un cadeau que le président à l'époque, Mobutu, ils avaient remporté, je sais pas, la Coupe d'Afrique ou je sais pas quoi, je pense. Et parmi, à part l'argent qu'on a donné, les voitures et tout ça, on leur a construit ces pavillons là. Donc après, la personne qui était là-dedans l'a vendu à la personne qui nous a vendu. Donc nous sommes les troisièmes propriétaires. Au départ, c'était vraiment c'est un quartier résidentiel. Bon, après, on a construit d'autres logements pour unifamilial et toujours des pavillons. C'est un quartier qui avait que des pavillons.
Parce qu'au tout début, le quartier là, c'était le quartier des jeunes fonctionnaires. Donc les jeunes fonctionnaires, c'était en 1976 qu'on a construit ce quartier là. Et c'était les jeunes fonctionnaires là qui venaient, qui obtenaient un crédit et qui rachetaient les maisons là-bas. C'était la caisse d'épargne à l'époque qu'on appelait la CNCI qui avait fait ça, qui avait fait le lotissement. Et maintenant, c'est tout le monde, hein, donc ce n'est plus comme avant. Avant, il n'y avait que des jeunes fonctionnaires ou des jeunes gens qui venaient de terminer leurs études qui achetaient là-bas.
Après, bon, c'est ça, les familles ont acheté, ils ont construit presque dans le même style. Parce qu'à l'époque, c'était beau, hein, ça paraissait très bien. Même quand nous, on a vu ça au début, là-bas, c'était beau. C'était pratique parce que c'était bien agencé. Et derrière, il y a un petit, on a fait un petit potager. Et le potager est toujours là. Donc c'était vraiment pratique. Donc c'était ça. Donc les joueurs, quand ils ont eu beaucoup, beaucoup d'argent, donc la plupart, ils ont revendu. Ou ils ont agrandi. Ou en tout cas, je ne pense même pas qu'il y ait encore des joueurs là-bas. Encore ces joueurs-là. À cet âge-là, ils sont plus, je ne sais pas à quel âge, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc, c'était des logements que le gouvernement avait construit pour les joueurs de l'équipe nationale.
We are all together and we have those stories. And I want to see how they connect. But I'm also aware that those stories that I want to be transmitted to me are as private as political, and as political as private.
Usually they had to come
I feel that their stories say so much, because the stories of the Congolese immigrants in Belgium from the generation of my parents,
whose state
is not told.
Bring these women in and have them work and then leave.
Definitely not in Belgium. But I will not go into that, not this time, because I think it's a traumatizing story sometimes. I can't just ask my parents to just go through it. And I know it is because I felt some of it when I was a kid. And even if I couldn't explain everything, I could feel it.
Et ce quartier-là où on habitait, c'était un quartier de personnes quand même intellectuelles, même jusqu'à aujourd'hui. Donc ça nous convenait, quoi.
En fait, bon, c'est des circonstances un peu particulières, hein, parce qu'en fait, l'ancien propriétaire était en train de divorcer avec sa femme. Et donc, il vendait la maison. Tu vois? Voilà. Et c'est pour ça qu'on a pu racheter la maison.
Est-ce que je sais encore? Ah, le propriétaire. C'est-à-dire, on s'est rencontrés chez des amis communs. Alors, comme ça parle, on m'a dit qu'il divorçait, qu'il voulait vendre sa maison. À l'époque, j'avais un peu d'argent, parce que quand j'étais aux études ici, je faisais mon petit commerce d'épargne. Donc, j'avais quelques économies. Mais ça ne suffisait pas pour payer, pour acheter. Et entre-temps, j'ai rencontré ton papa. Et la première chose que je lui ai dit, voilà, il y a telle personne qui veut vendre sa maison, je n'ai pas de sous, est-ce que tu peux avoir de sous? On avait quand même la bourse de Dieu, je ne sais pas moi. Et puis, bon. Alors lui, il avait aussi des petits excès d'économie à lui. Parce qu'il avait montant pour moi, donc on a mis tout ensemble. Donc, on a, comme le propriétaire était ici, on a signé la vente avec, en confiance. Parce qu'il a donné quand même le maximum d'argent. Et puis, on lui a dit que les restes, on les lui donnera plus tard. Quand on lui a donné les restes plus tard, il nous a donné les papiers de la maison. Sans voir la maison, oui. Mais je connaissais les maisons là. Je connaissais les maisons, mais ça, la maison qu'on achetait, je ne la connaissais pas. Mais le quartier et les maisons là, je les connaissais. Et puis c'est l'endroit où je voulais vraiment habiter un jour. Un des endroits où je voulais habiter un jour. Parce que c'est en hauteur, je t'explique ça. C'est très facile pour aller à l'université. C'était facile pour aller au centre des villes. Donc les transports étaient faciles. Et puis il y avait un marché non loin de là, un marché où chez nous j'ai marché sur tous les jours. Voilà, tout était tout prêt. C'était un quartier quand même avec des gens qui sont intellectuels là. Donc ça convenait, c'était vraiment l'idéal, c'était vraiment comme un cadeau quoi. Et puis on se disait, bon, faire des travaux c'est pas difficile. Hein. À l'époque c'était pas difficile de faire des travaux.
First woman and second Canadian to go into space. She was one of six Canadian astronauts that were selected in December of 1983 by the Canadian Space Agency. In early 1990, she was designated as the prime payload specialist for the first international microgravity laboratory mission, the IML-1.
Et racheter la maison, comment ça s'est passé aussi? Parce que bon, on était des étudiants. Voilà, en fait, on avait ici une bourse qui était complété par... Donc, il y avait un complément comme ça que les gouvernements zaïrois de l'époque devaient nous verser. Et il y avait parfois, on passait des dizaines de mois, des mois et des mois sans que ces compléments ne soient versés. Voilà. Et parfois, il arrivait que, ouf, on se souvienne de nous et on donne l'argent pour 12 mois ou 14 mois ou 8 mois. Voilà. Et donc, quand l'occasion est arrivée là, voilà, on avait cet argent-là, cette circonstance-là est venue. Et donc, c'est comme ça que la maison a été achetée. Mais en partie. Et après, on a fait l'effort de terminer le reste. Donc, ce qui restait à payer, c'est ça.
Et c'était une chance d'avoir la maison parce que le propriétaire de la maison était ici en Belgique. Il habitait à l'époque, il habitait Bruxelles. Il a eu divorcé avec sa femme. Et donc, il fallait vendre quoi. Et lui, il devait rentrer à Kinshasa parce qu'il n'arrivait plus. Il faisait une thèse de doctorat en mathématiques, mais avec les conditions de vie ici en Belgique. Tout était compliqué, compliqué. Bon, il n'a pas réussi à faire sa thèse. Et comme il est divorcé aussi, bon, il a préféré rentrer. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leur thèse comme ça parce que les conditions ici dans les universités étaient très difficiles pour nous, les Congolais. Comme le pays ne nous soutenait même pas, donc ils tournent en rond dans les études. Bon. Comme il avait encore son travail à Lubumbashi, ben il a préféré rentrer. Et nous aussi, on a voulu rentrer, mais bon, on nous a déconseillé. Bon, que j'avais toujours mon travail, ton père avait toujours son travail. Parce que quand on était ici, on avait ton salaire était toujours payé. Le salaire était toujours, le poste était toujours là. Et bon, quand tu rentres ici avec ton diplôme, soit tu retournais reprendre ton poste, il y avait des possibilités. C'est après que la situation s'est détériorée.
Thanks a lot for that interview. That was really interesting and is kind of a pretty smooth segue into what I'm going to be talking about tonight in terms of conservation. And as we're seeing this kind of growing pressure on resources all over the world and specifically in Africa, and what we're starting to see now in the Democratic Republic of the Congo is that as the chaotic situation is starting to settle down, there are certainly parts of the country where that would not be accurate to say that, but in general, as there is a degree of calm that is coming to the country, what is happening is that timber interests are moving in very aggressively and very quickly. The Democratic Republic of the Congo is home to the second largest tropical forest in the world and the most intact tract of tropical forest. And this has largely been the case because for so long under the reign of Mobutu Sese Seko, there was very little infrastructure in the more remote areas of the country. And so these resources were largely inaccessible, but now things seem to be open for business.
Thinking about that and that house in Kinshasa, I was being like, how am I going to manage that when my parents will be gone? And that question about, you know, that fact that one day my parents will be gone, it's scary on so many levels. It's scary on so many levels. Because I feel like they are maintaining the whole connection that me and my brothers have with everything Congolese and everything family. That's how I feel. And I always felt like, okay, counting the years, I have to be responsible, I have to do the work, I have to be in charge, I have to take the leadership at some point, because I'm the older sibling, I'm the big sister, so typically that would be my job to do it. And my brothers never express interest or concern, or we never had that real conversation, maybe.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, c'est vrai, il y a eu beaucoup de mes frères et sœurs, surtout, pas du côté de ton père, mais de mon côté, qui ont défilé là-bas pour faire les études. Après, quand les études, c'était, ils ont habité. Et voilà. Donc, combien il y a trois... Il y a mes deux frères qui ont habité là-bas quand ils se sont mariés. Et mon neveu aussi, il a habité là-bas pendant un moment. Et en définitive, c'est mon autre frère ici qui a habité là-bas jusqu'à présent. Alors lui, il a fait quand même presque 10 ans dans la maison. Alors c'est en Afrique. J'ai fait comme tout le monde, il n'y a aucun loyer qui est payé. Donc ils vivent là-dedans gratuitement. Bon, c'est comme ça. Mais... pourquoi la famille de ton père n'a pas habité là-bas? Parce qu'il n'y a personne qui est venu à Kinshasa à ce moment-là. Après tous ces temps ici. Il n'y a aucun enfant ou un membre de la famille qui est venu à Kinshasa. Sinon, bon, ils auraient habité aussi là-bas.
Que de la famille de maman? Que de la famille de maman? Ta maman avait demandé à son petit frère... Bon, que comme il réside là-bas, il travaille, il a un peu de revenus, qu'il paye quand même chose comme ça. Il sait que le pays là, voilà, moi, ma mère à Bounia ou à Goma. Tu sais ce qu'il a répondu? Il a dit que beaucoup de gens sont passés là-bas, ils n'ont jamais payé. C'est pas lui qui va commencer à payer la maison. tu vois, les familles africaines, parfois, c'est compliqué. Hein?
Thinking about transmission. I'm like, yo, one day maybe, no, one day for sure, my parents will be gone. And me and my brothers, we will have to deal with that house in Kinshasa, which means that we will probably need to go to Congo, to go to Kinshasa, a country we don't know much about. And talk with people in French, the colonial language, because we don't speak Swahili or Lingala, especially Lingala in the capital. And we would meet family that we don't connect with and do things properly with customs and rules and codes that we are not aware of. And it just felt like I would be the one doing it, and that it was a huge responsibility that was intimidating, really intimidating. And I think on the larger sense, the whole transmission thing is intimidating, because I mean the house is just like a visible, like something that I can point, that is actually a representation of all, everything around transmission in this diasporic situation.
Get them down on paper and reach you, so that you can see that you're not the only one thinking these things, that, you know, there are other people with the same fears, thoughts as you have.
C'est ça. Donc, personne n'a jamais payé cette maison. Et nous sommes... Hein? Donc, dis-toi que la maison a été mise en 86, OK? Nous sommes en 2022, c'est ça? Bon, ça fait à peu près 36 ans. Et il y a toujours eu des gens dedans.
Et en hauteur, tu vois, Kinshasa, c'est une cuvette. Alors, il fait très chaud. Mais quand vous êtes en hauteur, ça va. Il y a même, quand on continue un peu plus haut, il commence à faire froid la nuit. C'est bizarre. Bah oui, à l'UPN, là où j'étudiais, il faisait froid la nuit. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelait Mongafula. L'UPN, c'est très haut aussi. L'université aussi, c'est très haut. Le campus, là, c'était bien. Les logements étaient bien parce qu'ils sont en hauteur. Ils n'ont pas presque pas de moustiques. Et à l'époque, il n'y avait pas d'insalubrité. Contrairement à la cité, là, il y avait toujours de l'eau et de l'électricité. Mais à l'époque, quand je suis arrivée à Kinshasa, il n'y avait pas de l'électricité. Il y avait toujours de l'eau et de l'électricité. C'était impossible, inconcevable qu'il y ait une coupure de courant ou d'électricité. Donc c'est maintenant qu'il y a des coupures d'électricité, d'eau. Donc l'eau était potable et il n'y avait pas besoin de la chauffer ou tout ça. Tout était bien, tout était magnifique.
Et que même au début, on payait même l'électricité et l'eau. Après, on a plus payé de l'eau.
Ce qu'on n'a pas dit là-dedans, c'est les membres des familles successives, hein, qui ont habité dans la maison. Au départ, on l'a acheté à 16 ans. Parce qu'à Kinshasa, tu vois, les logements sont très difficiles. À cette époque-là, les logements étaient déjà très difficiles. Le prix du loyer commençait à monter de plus en plus. Bon, tant que moi, j'étais là sur place, ça va. Mais moi, à distance, commencer à payer des loyers, c'était très difficile. Parce que y a beaucoup de membres de famille qui viennent étudier à Kinshasa. Donc on s'est dit, si on a une maison à Kinshasa, ceux qui étudient peuvent rester là-dedans pour faire leurs études. C'était ça le but d'abord, dire que bon, les enfants qui veulent continuer leurs études à Kinshasa.
She was so surprised when one day she actually realized that she was black when she was small. That was why we returned to the Caribbean. And ever since then, like, I've grown up with a very strong sense of the fact that I was black, and that not so much that I was a black woman, but because there aren't, to be honest, that really that many female role models.
It raised a lot of questions about, am I worth it of it all, and am I even somehow legit? But I know I'm legit. I know that this is my name, these are my parents, this is what they invested for us. So I know I'm legit. The house was a connection that I didn't know how to approach.
It's very important for the black community. We do have role models in the black community, and unfortunately we do not communicate those information to those who actually need it, the black youths.
qu'il a du mérite quand même parce qu'il a, il a quand même entretenu la maison, hein, même s'il est resté plus de 10 ans là-bas sans payer un seul sou. Bon, ça, il a quand même soigné la maison, c'est bien. Mais bon, il y a des gens qui ont vraiment profité, hein, de la maison. Et c'est ça le problème. Bon, le seul beau côté, c'est que quand il y a quelque chose à réparer, il le répare. Les autres, ils demandaient à ce qu'on envoie de l'argent pour qu'on fasse ceci ou qu'on fasse peut-être un travail.
Growing up, knowing that there was that house, I think it was more like an additional link that I had with Congo that was really uncertain about in terms of opportunity to explore it, to connect to it. And it was really like, you know, everything that is abstract about diasporic situation, diasporic realities, that house was like a concrete thing. It's there. It's like, no doubt it's there.
Ça va être vendu. Bon, le seul le paramètre d'urgence, c'est qu'il faut que ça soit vendu avant que son oncle quitte là-bas, quoi. Parce que comme il voit les gens restent son épouse en Italie, donc ouais, il faut que la maison soit vendue.
And I think growing up, not being comfortable or not being sure about how transmission would happen. I mean, how you think about transmission, you think about all kind of stuff, like how Congolese am I? And yes, I'm definitely the child of my parents, but how different are we? What has been lost in the process of immigration, disconnection, dislocation?
And I know some people seem to be uncomfortable.
That cuts, because it feels like a cut.
If we are going to organize, we have to have something around which to organize.
Même si celui-ci n'achète pas, il y a des gens qui sont sur la liste d'attente et qui attendent. Donc, bon, de toute façon, ça va être vendu.
Merci.
Voilà, c'est ça. Je ne sais pas ce que je vais savoir d'autre.
The queue leader, really, because we are black.
There is something else that was always kind of in my mind for a while. When I was a kid, especially when I was really young, until 7 or 8, is the return. The return is...
So we always need and welcome your feedback. We can't survive without you. So please, remember to support...
You just heard The House of Kinshasa, a sound project by Po BK Lomami. To learn more about the piece, visit the Radio Art Archive at wavefarm.org. This is Austin Ritchie for the Wave Farm Radio Art Archive.